RFI. Le Monde à midi.
Pour revenir sur les déclarations d'hier de Donald Trump concernant Gaza, on n'ose même pas dire déclaration choc, ça ne semble pas donner vraiment la mesure de ce que propose le président américain. Évacuer les Palestiniens de Gaza, placer le territoire sous contrôle américain pour que les États-Unis y développent l'économie et y construisent des bâtiments touristiques. Donald Trump veut faire des lieux la Riviera du Moyen-Orient. Pour en parler, nous recevons Xavier Guignard, chercheur associé au Centre Noria Research et au Middle East Council, co-auteur du livre « Comprendre la Palestine » publié aux éditions Les Arènes. Xavier Guignard est au micro de Nicolas Falaise.
Bonjour Xavier Guignard.
Bonjour.
Une situation de propriété sur le long terme, c'est ce que Donald Trump envisage pour la bande de Gaza. Ces déclarations du président américain surprennent. Est-ce qu'elles s'inscrivent dans une vision déjà évoquée par le président des États-Unis ?
On dirait une déclinaison apocalyptique de ce qu'il avait déjà prévu dans ses accords, son deal du siècle, présenté en 2020-2021, la même idée de transformer Gaza aujourd'hui en la Monaco du Moyen-Orient, hier la Singapour du Moyen-Orient revient, cette fois sans ses habitants, et au profit, pour le citer, des habitants du monde entier, mais pas des Palestiniens qui sont invités à quitter la bande de Gaza, pour ne pas dire être déportés, et ne pas y revenir.
Il y a quelques jours déjà, Donald Trump avait évoqué l'idée du déplacement d'une grande partie des habitants palestiniens de la bande de Gaza, idée qui avait déjà provoqué un tollé à ce moment-là.
Oui, c'est suite à la visite de son envoyé spécial Witkoff sur place, lui aussi un grand magnat de l'immobilier, qui disait que devant l'ampleur des dégâts et devant la présence d'environ 30 000 bombes non explosées dans la bande de Gaza, il fallait, pour la reconstruction, vider la bande de Gaza de 75% de ses habitants. Là, hier soir, Trump parlait de 100% de ses habitants pour permettre la reconstruction et la transformation de Gaza en un projet immobilier complètement fou.
Les premières voix qui s'élèvent pour dénoncer cette vision, ce sont les Palestiniens et les pays arabes de la région, y compris les alliés des États-Unis dans la région.
Oui, les Palestiniens ont immédiatement dénoncé cette prise de position américaine. L'Égypte et la Jordanie, qui sont de nouveau cités pour accueillir malgré eux les Palestiniens, s'y sont opposés. Et puis cette nuit, à 4h du matin, le prince héritier d'Arabie Saoudite a publié un communiqué rappelant son attachement à la solution à deux États. C'est important, non pas parce que c'est la position saoudienne, mais parce que dans l'idée de Trump, ce déplacement et cette relocalisation forcée des Palestiniens sera financée par le Golfe.
On comprend déjà que Donald Trump ne trouvera pas de soutien d'alliés pour participer à cette vision pour la bande de Gaza.
À part l'actuel gouvernement israélien, on peine à voir qui va soutenir cette décision. Alors, probablement personne publiquement. Néanmoins, on peut faire le pari que la Russie ou la Chine regardent favorablement cette situation, non pas pour les Palestiniens, mais parce que ça leur permettra, le moment venu, de se servir de ce précédent américain à Gaza s'il avait lieu, pour avancer leur solution, l'un à Taïwan, l'autre en Ukraine. Une diplomatie de la force, une diplomatie qui se permet les crimes les plus absolus. Puisque c'est ça, hein, ce à quoi on a assisté hier. C'est Trump qui reçoit un Premier ministre en exercice poursuivi par la Cour pénale internationale et à qui il dit, devant l'ampleur des dégâts que tu as causés et que l'administration précédente américaine a permis, je suis forcé d'aller plus loin dans le crime et de prendre 2 millions de personnes et de les chasser de chez eux.
Est-ce qu'il faut établir un lien entre le projet de Donald Trump énoncé ces dernières heures et l'ambition américaine, qui est celle de Donald Trump, mais qui était aussi celle de l'administration précédente, de prolonger les accords d'Abraham par une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, ce qui changerait le visage du Moyen-Orient?
C'est au fondement de la doctrine américaine pour le Proche-Orient. Je ne suis pas certain qu'après le 7 octobre, c'était au cœur de la projection israélienne dans la région. Ça l'est encore moins pour l'Arabie Saoudite qui, à l'été 2024, a publiquement et de façon répétée annoncé son opposition à une normalisation en absence d'un État palestinien. Et ça a été encore rappelé hier par le communiqué saoudien. Cette normalisation, elle a perdu en valeur du point de vue de l'Arabie Saoudite, puisque l'action d'Israël dans la région, tant chez ses adversaires libanais, syriens ou palestiniens, que chez ses alliés jordaniens et égyptiens, menace la stabilité régionale. Et je pense que dans ce cadre-là, ce n'est pas une décision à l'emporte-pièce qui a été prise par la couronne l'été dernier d'annoncer qu'il s'opposait à la normalisation dans ces conditions, mais je pense que c'est le déroulé, la traduction d'une nouvelle stratégie qui cherche plutôt à ramener l'Iran à une forme de raison que se rapprocher d'Israël en ce moment.
Envisager une propriété américaine à long terme sur la bande de Gaza, en faire partir la majeure partie des habitants, ce projet énoncé par Donald Trump, est-ce qu'il correspond à la lecture de l'actuel gouvernement israélien de ce qu'il doit être fait demain ?
Quand on regarde le visage de Netanyahou pendant la conférence de presse, on peut penser que lui-même est surpris par l'annonce du président, même si cette annonce, je pense que du côté américain, elle était travaillée. Mais Netanyahou est conscient des risques sécuritaires et politiques que ça fait peser pour la région et se demande peut-être à quoi correspond exactement cette ambition américaine. Est-ce que c'est un déploiement sur le long terme de troupes américaines à Gaza ? Ceci étant dit, ça lui permet deux choses en interne, et ça a été confirmé par Ben-Gvir ce matin.
L'ex-ministre israélien de la Sécurité nationale qui avait démissionné pour protester contre l'accord de cessez-le-feu.
Ce même personnage, ce matin, se disait prêt à revenir au gouvernement, ce qui permettrait à Netanyahou d'avoir une coalition plus large qu'il ne l'avait hier. Et puis, pendant qu'il parlait de Gaza, ils ont aussi parlé de la Cisjordanie. La Cisjordanie est au cœur de la stratégie du gouvernement actuel israélien qui ambitionne son annexion partielle ou totale. Ça s'est vu par la libération de colons violents, par la proposition de loi israélienne sur la possibilité pour les colons d'acheter directement des terres en Cisjordanie. Et Trump a dit à Netanyahou hier soir « Je me donne 4 semaines pour te répondre sur les projets d'annexion que tu m'as présentés ».
Quoi que l'on pense des déclaration de la vision de Donald Trump sur la bande de Gaza, elles remettent au centre la question de la reconstruction et en tout cas de l'ampleur des dégâts provoqués par la guerre et les bombardements israéliens à Gaza.
Il va y avoir un effet, je pense, de tétanie chez un grand nombre d'acteurs devant les déclarations de Trump, mais tétanie aussi parce qu'ils sont incapables de formuler une solution humanitaire, de reconstruction et politique qui ne soit pas la répétition de ce qui est dit et répété depuis une vingtaine d'années à minima pour tenter de relancer un processus de paix qui est complètement mort. Et quand on les entend depuis un mois, on a l'impression que le 7 octobre et les 14 mois de guerre qui ont lieu après n'ont pas existé. On reparle de la solution des États, du déploiement de l'autorité, mais sans prendre en compte à la fois la dimension désastreuse de la situation humanitaire de la bande de Gaza, les enjeux de la reconstruction qui sont phénoménaux et les défis que ça pèse pour une solution politique qui permette à la fois d'assurer la gouvernance de Gaza et puis qui permette de se dégager de l'emprise de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Et en ça, Trump a un coup d'avance parce qu'il met sur la table une proposition. Alors elle est odieuse, elle est conforme à aucune loi internationale, mais il avance quelque chose et devrait forcer les autres partis, pays arabes et européens, à être capables de formuler une contre-proposition, et on ne les entend pas.
Xavier Guignard au micro de Nicolas Falaise. Xavier Guignard, chercheur associé au Centre Noria Research et Middle East Council, co-auteur du livre « Comprendre la Palestine » paru aux éditions Les Arènes.